notre chronique éco et sociaux qui prend des airs de sciences politiques aujourd'hui, puisqu'on va parler de la gestion des émotions par les hommes politiques et de la situation sanitaire, puisque vous allez l'entendre, les deux sont liés. Bonjour Soizic, alors aujourd'hui vous vous demandez de quoi la colère d'Olivier Véran à l'Assemblée nationale est-elle le nom ?
Et oui Marie, on a beaucoup glosé sur cet emportement et il m'a paru intéressant d'y revenir en dehors de toute polémique, simplement dans une optique d'analyse dans sciences politiques. Je rappelle le contexte. Mardi dernier, à l'issue du vote de l'Assemblée nationale en faveur d'un état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 14 décembre et non jusqu'au mois de février comme l'avait prévu le gouvernement, Olivier Véran s'est emporté alors qu'il revenait d'un déplacement dans le service de réanimation du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes. Très en colère, il s'emporte et hurle, je cite, « Dans la première chambre, il y avait un homme de 28 ans dans le coma, intubé, ventilé. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme de 35 ans en surpoids. C'est ça la réalité, mesdames et messieurs les députés. »
Et alors, que penser de cet emportement ?
Alors, on retiendra évidemment à la décharge d'Olivier Véran l'accumulation de stress depuis qu'il est ministre de la Santé dans un contexte de pandémie, c'est certain. À cela se conjugue également l'émotion que ressentirait n'importe qui après la visite d'un centre de réanimation dans ce même contexte. Mais Marie, c'est justement là que le bât blesse. Je veux parler de l'émotion. En effet, ce que l'on peut légitimement reprocher à Olivier Véran, comme à tous les politiques d'ailleurs, qui font preuve d'un défaut de self-control, c'est justement de faire passer au premier plan de leurs émotions, relayant par conséquent au second plan la raison. Si gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est également conduire la nation avec des arguments rationnels et objectifs, loin des croyances, des préjugés et des raisonnements simplistes. Parce que le problème, c'est que le discours apocalyptique et anxiogène d'Olivier Véran ne reflète pas la réalité qu'il prétend décrire. J'en veux pour preuve les analyses de Laurent Toubiana, chercheur en épidémiologie à l'INSERM depuis près de 30 ans et qui remet pour le moins les pendules à l'heure dans un article vraiment passionnant de Mediapart. Le chercheur rappelle que sur 15 millions de tests effectués fin octobre, 93% sont négatifs. Et parmi les 7 positifs, plus de 85% ont moins de 60 ans. C'est-à-dire que ce sont quasiment toutes des personnes qui ne sont pas à risque de faire une forme grave de la maladie. Il faut le redire. Le chercheur poursuit. En septembre-octobre, 7,5 millions de tests ont été réalisés. 0,5% des personnes testées ont été hospitalisées et seulement 0,09% d'entre elles ont été admises en réanimation. En d'autres termes, la probabilité moyenne pour chaque individu lambda de ne pas être hospitalisé est de 99,5% et celle de ne pas être admis en réanimation de 99,91%. Par ailleurs, la sociographie des patients, éditée la semaine dernière par l'INSERM, montre que le profil type des malades en réanimation n'est pas de 35 ans, comme semblait le dire le ministre de la Santé. L'âge médian des décès de la COVID-19 à l'hôpital en réanimation est en effet de 80 ans. Autrement dit, 50% des personnes en réanimation plus de 80 ans et 50% moins de 80 ans. Et ce sont particulièrement des hommes à 74%, lié à un problème de comorbidité, dont l'obésité.
Et entendez-vous par là que la situation est moins grave parce que la pandémie s'attaque surtout aux personnes âgées ou vulnérables ?
Mais évidemment non, pas du tout, bien sûr. Mais cela signifie en revanche, et il faut rester concret, il faut rester pragmatique, ça signifie que les mesures qui sont mises en place, évidemment, ne seront pas les mêmes selon les personnes atteintes. Si effectivement l'âge le plus fréquent des personnes décédées de 35 ans, comme semblait le dire un petit peu Olivier Véran sous le coup de l'émotion, on comprend bien qu'il faudrait repenser le non-confinement des personnes qui travaillent, par exemple. De même, si cette pandémie touchait les plus jeunes, il est évident qu'il aurait fallu fermer les écoles, les collèges et les lycées, et ça depuis longtemps. Par conséquent, ce ne serait pas tant dans la létalité de l'épidémie qui pose problème, que la dégradation du système de santé désormais incapable d'affronter pareille situation. Le problème de nos élus en colère n'est donc pas tant de faire un coup de gueule que d'envoyer un piètre signal de gouvernance. On le sait, la colère est mauvaise conseillère et la panique n'a pas sa place dans un gouvernement. Pour terminer, je citerai Oscar Wilde qui disait que l'émotion emprisonne la pensée dans un cercle. Notre gouvernant ne devrait-il pas de temps en temps se mettre en mode pause et prendre le temps de relire Oscar Wilde ?
À méditer. Merci Soizic, on s'excuse pour les petites coupures que vous avez peut-être entendues, ce sont les aléas techniques de la visio. Mais en tout cas, cette chronique est à réécouter sur notre site internet, comme toutes les autres d'ailleurs.